au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Bienvenue à Auto 360, j'espère que vous allez bien. Nous, on est en pleine forme. Je parle de moi et je parle aussi de Marc Bouchard, Philippe Lagut, puisque nous nous sommes déjà parlé et je leur parle immédiatement. Alors, salut Marc!
Salut mon cher!
Comment ça va?
Ça va, ben écoute, nous on n'est pas allé passer quelques jours dans le sud à se faire bronzer, mais on est quand même en forme.
Ouais, t'es en forme, en pleine forme. Marc, une de tes nouvelles que t'as parlé cette semaine m'a inspiré la question du jour et je vais aller voir Philippe tout de suite, puis après ça je vais être capable de vous la poser à toutes les deux. Salut Philippe!
Salut Daniel!
Comment ça va?
En pleine forme.
Hey Philippe, je suis content de la voiture que tu nous parles cette semaine, dis-nous ça.
Écoute, tu me demandes comment je vais... Tu viens d'avoir la réponse, parce que c'est ça que je roule cette semaine en plus. C'est la Lexus LC 500. J'ai eu la version V8, version à essence, modèle régulier, il y a quelques semaines. Et là, j'ai la version hybride. Mais quel bonheur! Quel bonheur! Puis en plus, c'est un heureux mélange, là, tu sais, version hybride, là. On a un peu une voiture sport, un peu une voiture de luxe, puis en même temps, on conduit une voiture qui nous rend zen par son silence de roulement et par le prix qu'on paye aussi pour la rouler, parce que ça coûte pas mal moins cher rouler l'hybride que la version à essence. On va en reparler.
Pas mal moins cher. Et c'est vraiment, et tu parles d'un bon mélange. J'ai conduit aussi cette voiture-là, j'ai hâte qu'on en parle parce
que
c'est un beau mélange de sport, de prestige, le luxe et le confort, une voiture de tous les jours qui est vivable. Philippe, je te pose la question tout de suite parce que cette semaine, comme Marc l'a dit tout à l'heure, je suis allé passer quelques jours au soleil et j'étais chez un ami et lorsque cet ami est venu me chercher à l'aéroport, j'ai remarqué que sa belle van Sienna, son réservoir était vide. Bon, on s'est rendu à la maison, on a fait quelques commissions. Le lendemain, on va encore à la plage et on fait encore quelques commissions. Et elle est toujours vide. Il ne fait pas le plein.
Il n'est pas allé mettre de l'essence.
Là, je lui demande, « Hey, est-ce que on peut faire le plein un jour? » Parce que moi, ça me stresse un peu, un réservoir totalement vide. Et ça m'amène à poser la question, « Attendez-vous que la lumière allume avant de faire le plein d'essence, de diesel, d'électricité ou peu importe? » Ou encore même aller plus loin, une fois que la lumière est allumée, peut-être que ça ne vous stresse pas vraiment, puis vous étirez ça jusqu'à la dernière minute. Toi, Philippe, t'es du genre de quoi?
Oh, moi, je suis un grand insécure dans la vie. Alors, aussitôt que la lumière s'allume, c'est sûr qu'on s'en va à station-service. De toute façon, moi, c'est pas ça qui oriente ma décision, règle générale. C'est le prix de l'essence. Okay. J'en fais une obsession puis une fixation. Alors, aussitôt que je vois que ça baisse, whoop, je vais en mettre. Peu importe comment il m'en manque.
Ah, c'est bon, ça.
Oui, alors tu vois.
Parfait.
Mais, effectivement, la lumière, moi, non, je ne suis pas du genre à pousser ma loque, pas du tout.
Pas du tout. Parfait. Alors, on se parle un peu plus tard, Philippe.
Au plaisir.
Alors, Marc, toi, de ton côté, tu es quel genre, toi?
Moi, ça dépend. C'est quand je suis dans une section que je connais, que je sais à peu près où sont les stations-service, c'est mon plaisir d'essayer de me rendre le plus loin possible, le plus proche possible de l'autonomie zéro affichée sur l'écran. Mais un jour, je vais avoir une panne d'essence, c'est jamais arrivé. Par contre, quand je suis dans une zone que je connais pas, là, je vais sauter sur la première station-service par insécurité. L'autre élément, c'est que j'aime bien savoir à peu près quelle distance il me reste. Une fois que la lumière jaune s'allume, combien de distance il me reste? Tu parlais d'une nouvelle. J'en ai parlé sur mon blog marcbouchard.ca cette semaine. Si vous allez là, j'ai mis un lien vers un site. Vous cherchez par modèle et on va vous donner la distance moyenne qui vous reste quand la lumière jaune s'allume dans votre tableau de bord. Quelle distance en mille vous allez pouvoir parcourir avec le carburant?
Ah, moi, ça me stresse au plus haut point. Je me suis déjà ramassé sur un pont à Boston, sur le pont, dans le trafic, dans un Durango. Le réservoir vide, la lumière allumée depuis je ne sais pas combien de temps. Je pense que nous étions 5 ou 6 à l'intérieur du Durango. J'étais le seul à stresser, puis pas à peu près. Puis là, j'ai dit à tout le monde, moi, si on manque d'essence, je ne pars pas à pied aller chercher de l'essence. Oubliez ça. Ça fait trop longtemps que je dis qu'il faut faire le plein. Alors moi, ça me stresse vraiment.
Moi, m'a touché du bois. Écoute, j'ai jamais eu de panne d'essence jamais, même si j'ai poussé ma loque plus souvent qu'autrement. Je suis obligé de te dire qu'il y a une nuance cependant avec les autos électriques. Je suis plus insécure avec une voiture électrique parce que je connais pas, comme je te dis, réellement l'autonomie. Puis parce que, évidemment, le temps de recharge étant plus long, ça me stresse un peu plus. Parce que, tu sais, tu manques d'essence sur le bord de l'autoroute 20, là, le CAA va venir t'emporter. Tu manques d'électricité sur le bord de l'autoroute 20, ça va te prendre une grande rallonge pour réussir à charger. Alors ça me dérange un peu plus. Je suis moins sécure, si tu veux, dans une auto électrique que dans une auto à essence.
Effectivement, on peut faire le plein un peu plus facilement avec ce type de véhicule. C'est à l'électricité, un, c'est un petit peu plus long, puis deux, ben, on peut le faire à moins d'endroits. Je vous donne les numéros pour vous me dire de quel type vous êtes. Pour les gens de Montréal, 514-790-9850. Pour les gens de Québec, 418-670-9330. Ailleurs, 1-866-790-9850 ou auto360 à cogecomedia.com. On fait une pause. Au retour, on a des nouvelles. On va peut-être s'en aller un petit peu à Tokyo parce qu'on parle de voyage aujourd'hui et on répond à vos questions.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Auto 360 avec Daniel Boudreau.
On prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Au réseau Cogeco, Auto 360
avec Daniel Boudreau.
L'automobile sous toutes ses soutures, ses coutures, c'est en tout cas.
Auto 360.
Auto 360. Les nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard.
Nous voilà de retour. Oui, les nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Et tout de suite après, on répond à vos questions, promis. Alors Marc, j'ai dit qu'on parle de voyage cette semaine. Tokyo, il y a un salon quand même assez important. Et il y a un thème qui est ressorti. Et il y a plusieurs nouvelles qui sont ressorties de Tokyo. Le thème, c'est la voiture autonome. Mais avant de parler de voiture autonome, je pense qu'on peut parler aussi de certaines marques comme Mazda qui ont été très présents.
Mazda était très présent. Ils ont notamment fait deux dévoilements importants, le Mazda Kai. Mazda Kai qui serait probablement la nouvelle génération de Mazda 3 Sport, là, la version un peu plus familiale. Et on a présenté aussi le coupé Sport Vision qui est, on sait pas trop, on n'a pas dit que ce serait la future voiture sport. On a plutôt parlé que ça pourrait être éventuellement la nouvelle Mazda 6, bien que, évidemment, le design est un peu plus dramatique qu'une berline traditionnelle, là. Et c'est vraiment très beau. Moi, j'adore ça. Et, juste pour ton information, oui. On en a aussi profité pour lancer un parfum du langage de design Kodo que tu connais bien chez Mazda. La compagnie japonaise Shiseido a lancé un parfum Kodo, l'âme du mouvement, développé en collaboration avec les gens de chez Mazda. Non, ça sent pas le gaz, m'a-t-on dit. Je te rassure tout de suite.
Mais qu'est-ce que c'est ça, lancer un parfum dans un salon de l'auto, en tout cas?
Je pense qu'on tire Mazda...
un petit peu à gauche et à droite, là, c'est pas vraiment intéressant d'avoir un parfum du nom du design de la voiture, alors que personne ou à peu près personne sait ou porte l'intérêt au nom du design de la voiture.
Écoute, il y a eu des meubles qui ont été développés il y a 2 ans sous le nom Kodo. Il y a eu des chaises de salon. Kodo, on veut vraiment en faire une philosophie de design qui est beaucoup plus large que simplement la compagnie automobile. Et c'est ce qu'on est en train de faire, entre autres avec ça.
Ben, on peut parler de Kodo parce que la Mazda 3, ce qui devrait être la future Mazda 3, ce qu'on a pu voir comme le véhicule concept, ça risque d'être très beau.
C'est très beau et vraiment, on reprend en fait ce qu'on avait déjà développé, là, le capot très long, très plongeant, les phares affilés, on a vraiment raffiné tout ça. La partie arrière est un peu plus arrondie, c'est vraiment très joli. J'espère que ça va y ressembler. Je t'avoue que Mazda a l'habitude de nous présenter des choses qui sont pas très loin de la production. On va souhaiter que ce soit le cas aussi.
On reste chez Mazda juste pour parler du moteur rotatif. Avant, c'était beaucoup de rumeurs concernant le moteur rotatif. Et évidemment, on s'attendait à une annonce de la part de Mazda et c'est fait.
C'est fait. On a confirmé le retour du moteur rotatif, mais pas comme élément tout seul pour propulser une voiture, plutôt comme prolongateur d'autonomie. Donc, ce serait ajouté à une motorisation électrique pour être en mesure d'avoir un véhicule qui serait, tu sais, un peu comme une Chevrolet Volt, par exemple, ou une BMW i3. Mais dans ce cas-là, c'est le moteur rotatif qui servirait de prolongateur, ce qui est excellent comme idée. Le moteur est tout petit, prend pas d'espace, donc ça pourrait être effectivement une bonne décision, mais... Attention, on dit pas avant 2020 et probablement après. Alors, ça sera pas pour cette semaine, mon cher.
Autre nouvelle.
Autre nouvelle, ben toujours dans Tokyo, Mitsubishi qui a ramené le nom Evolution, mais avec le E-Evolution, qui est une espèce de multi-segment, quatre roues motrices, vraiment magnifique. Encore une fois, on parle de design, c'est extrêmement bien réussi, c'est de toute beauté. On va souhaiter que ça arrive parce que en même temps, Mitsubishi a confirmé qu'il y aurait 11 nouveaux modèles d'ici 2022. Donc, wow. La compagnie est sur une lancée, c'est une bonne nouvelle. Subaru qui a présenté le Visiv Performance, qui est un concept absolument magnifique, vraiment là sportif, vraiment musclé, athlétique. On pense que ça pourrait être la nouvelle WRX STI. Encore une fois, Subaru, c'est le genre de compagnie qui nous fait des bien beaux prototypes, mais malheureusement, c'est pas toujours ça qu'on retrouve sur la route.
Marc, Visiv, c'est pas le nom de leur nouveau sport utilitaire?
Visiv,
c'est le concept du sport utilitaire?
Visiv, c'est le nom de tous les concepts que Subaru a présentés. Je pense que c'est le Visiv 4. Oui, effectivement, ils ont eu un sport utilitaire. Quoique le dernier s'appelait le 7 passagers, c'était pas Visiv.
C'était un autre nom, là, mais le concept était Visiv.
Le concept était Visiv. Celui qu'on a eu au Salon de Montréal l'an passé, c'était Visiv. Là, c'est Visiv 4. Mais celui-là, quand on le regarde, on voit vraiment que c'est très, très performant. Donc, on va souhaiter que ce soit ça. Et un dernier petit mot, qu'on pourra en reparler plus tard de Tokyo, oui. Mais on veut parler aux gens aussi. Un peu chez Nissan. On a présenté, bien sûr, la Nissan Leaf Nismo, une voiture sport électrique. Bon, mais c'est surtout le IMX qui retient mon attention, une voiture qui serait partiellement autonome, mais surtout une voiture qui est construite sur la nouvelle plateforme des voitures électriques. Ça, elle ne la partage pas avec la Leaf, c'est nouveau, et on dit que c'est là-dessus que Nissan va construire toutes ses voitures électriques à l'avenir. Donc, c'est un grand changement pour la compagnie. La Leaf serait plutôt seule dans son monde, mon cher.
Très bien. Alors, pour nous rejoindre, pour les gens de Montréal, 514-790-9850, Québec, 418-670-9330, 1-866-790-9850. Pour les gens ailleurs, il y a toujours Auto 360 à cogecomedia.com. Et on a Stéphane qui est là.
Bonjour Daniel, bonjour Marc et Philippe. Alors, j'ai une question pour vous autres à 100$, là, parce que là, je suis dans un dilemme actuellement. Je suis actuellement propriétaire d'un Chevrolet Avalanche 2013, que je suis, qui a 311 000 km sans aucun problème. Et malheureusement, le véhicule n'existe plus, comme vous le savez. Ce que j'aime du véhicule, moi, je tire pas rien, mais je fais beaucoup de routes. Je fais entre 60 à 75 000 km par année. Et ce que j'aime de ce véhicule-là, mis à part ses capacités, là, quand il fait pas beau, tout ça, les tempêtes, c'est le confort, parce que je suis un gars de 6 pieds, 285 livres, alors vous comprendrez que de rentrer dans une Rio, pour moi, c'est compliqué. Alors, là, je suis un peu embêté, parce que j'ai déjà été propriétaire de Silverado. Bon, je suis un gars de GM aussi, je tiens à le mentionner, donc j'ai déjà eu du Silverado, ce qui trouve pas beau, les Silverado, actuellement, j'ai le côté carré maintenant, là, s'il ferait... S'ils amèneraient le Silverado avec le look du Colorado, il serait super beau, mais actuellement, moi, personnellement, je l'aime pas. Alors là, je suis embêté, je sais pas quoi acheter, et je suis quasiment en train de me demander si je vais pas aller avec une Sienna de Toyota 4 roues motrices ou une Honda Odyssey pour avoir de la place, mais qu'est-ce que... Je sais pas, là, je suis embêté, qu'est-ce que vous me suggérez?
Est-ce que vous avez besoin de l'espace de boîte? Est-ce que vous avez besoin de l'espace de rangement? C'est pour ça, la mini-fourgonnette?
Occasionnellement. Des fois, j'ai du matériel à transporter. C'est du matériel électronique, là. C'est pas des cordes de bois, là. Mais des fois, j'en ai besoin. Pas tout le temps, mais des fois, c'est ce que j'aimais de mon Avalanche. Ben, avec l'espace modulable, des fois, je baissais la gate. Des fois, je la baisse pas. C'est ça que j'aimais de ce véhicule-là. Puis, j'aimais bien aussi l'aspect, bon, on est quand même en hauteur, on a une bonne vision, puis quand l'hiver, moi, quand j'ai zéro problème, là, fait que puis là, ben, retourner dans un pick-up, parce que c'était quand même, c'est sur un Avalanche, c'était quand même une suspension indépendante, là, retourner dans un, bon, je sais qu'ils ont beaucoup amélioré, là, on voit les annonces, là, qui corrigent la suspension à je sais pas combien de millions de fois par seconde, là, mais ça me tente pas de retourner dans un pick-up.
Bon, quand même, entre la camionnette puis la mini-fourgonnette, il y a les sports utilitaires. Puis il y a ça, il y en a un puis un autre. Alors, du côté, par exemple, d'un Highlander, du côté d'un pilote, ça, est-ce que ça pourrait pas faire l'affaire parce que vous allez aller rechercher du confort, vous avez de l'espace, vous avez 7 passagers, vous allez avoir un petit peu plus d'économie qu'une camionnette. Alors, moi, je pense que ça, entre les deux, ça pourrait être vraiment un très bon compromis d'aller chercher ce genre de sport utilitaire-là.
C'est
et
lui.
Aussi, l'Highlander, le pilote et les autres là, du côté de chez GM, ils ont aussi le Traverse, ils ont aussi qui est le nouveau Traverse. Là. Pas l'ancien, le nouveau, ça c'est bien important que je dis le nouveau Traverse, ça c'est important, okay. Le nouveau Traverse. Parce okay. que l'autre, je ne le recommande pas. Alors, ce genre de véhicule-là va vous donner quand même des capacités de remorquage si jamais vous avez besoin. Il va vous donner de l'espace, du confort et vous allez sauver au niveau de l'essence.
Est-ce que le Ford Explorer, ça fait partie de cette gamme-là?
Le oui, Ford Explorer, oui, absolument. Je l'oublie souvent, mais le Ford Explorer fait un bon travail. À du très haut kilométrage, si vous optez pour la motorisation EcoBoost sur le Ford Explorer, il ne faut pas lâcher l'entretien. Il faut tenir ouais. l'entretien très serré. Mais effectivement, oui, l'Explorer fait aussi partie de cette gamme-là.
L'Explorer, son seul défaut, en fait, c'est peut-être que les options sont un peu plus dispendieuses. Si vous prenez les modèles plus équipés, vous risquez de vous retrouver avec une voiture un peu plus dispendieuse. Et juste pour compléter ce que Daniel disait, si vous avez besoin absolument d'un 4 roues motrices, parce que vous semblez vous tourner vers les all-wheel drive, objectivement, aller vers une utilitaire sport ou un multisegment, oubliez les mini-fourgonnettes, il n'y a que la Sienna. Et à mon sens, vous allez trouver ça un peu trop différent de ce que vous aviez auparavant. Alors, allez vers un VUS, vous vous trompez pas, c'est certain.
Merci beaucoup, Stéphane, c'était fort gentil. André est là. Bonjour, André.
Oui, bonjour. Ça va bien? Bonjour.
Oui, absolument.
Je pense que vous avez oublié un véhicule pour le monsieur qui vient d'appeler. Moi, je suggérais un Ridgeline de Honda, qui est à peu près le véhicule équivalent à ce qu'il y a. Là. C'est un genre de pick-up, ouais. pas pick-up. Là.
Ça peut ouais, vous voulez dire genre d'avalanche, mais c'est plus difficile, ouais. le couvre-boîte. Et le monsieur a besoin souvent, parce que son ouais. avalanche, l'avantage majeur, c'est que la portion entre la cabine et la boîte se rabat. Donc, on peut avoir ouais. plus d'espace de ce côté-là, tandis que le Ridgeline, qui n'est pas une mauvaise ouais, idée, ça va bloquer quelque part. Il va falloir qu'il sorte la scie à faire pour charger.
Et c'est pour ça, ouais, qu'on a parlé du pilote, en fait, parce que monsieur c'est disait ça. Qu'il ne voulait plus vraiment de camionnette, de pick-up. Donc, on a opté pour le pilote, qui est, à mon sens, peut-être plus polyvalent ouais. que le Ridgeline ne l'est.
Bon, je vais revenir à mon point. Oui. Moi, ce qui m'a fait appeler, c'est au début, vous parliez du monde qui manque d'essence, là.
Oui.
Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Et la raison, c'est qu'un, je possède un pick-up, un Dodge Ram 1500, 5,7 litres EMI. EMI, ça veut dire EMI de l'essence. j'en ai tellement mis de l'essence que j'ai converti mon véhicule au propane.
Okay.
Là, maintenant, ben, je suis moderé. Moi, je gaze à entre 40 et 50 sous le litre.
Avez-vous de l'autonomie en masse?
Ah, j'en ai même affaire avec l'essence. En réalité, j'ai deux réservoirs. J'ai mon réservoir d'essence, okay. qui, évidemment, est toujours utile parce qu'il faut qu'il soit là. Puis, j'ai dans ma boîte, dans la boîte du pick-up, j'ai un réservoir de 120 litres de propane. Et puis, c'est sûr que il y a des inconvénients, puis il y a des avantages à tout ça. L'inconvénient, c'est ben je peux pas propaner, si on peut dire comme ça, n'importe où. C'est un petit peu plus difficile d'accès, c'est peut-être le seul problème qu'il y a. Moi, chanceux, j'habite plein ville, ça, je vais gazer chez Budget Propane sur l'autoroute 50 en face de Bombardier. Là. Mm-hmm. Ils ont mis un système de cartes là, où je peux aller gazer jour et nuit, 24 heures par jour. Là. N'importe quel jour de la semaine, là, parce que c'est ça qui fait mon affaire. Juste pour vous expliquer, la première année, quand j'ai eu mon pick-up, j'ai fait 66 500 kilos, j'ai mis 12 000 piastres d'essence là-dedans. L'année d'ensuite, de ma conversion, j'ai fait 63 400 kilos, j'ai mis 6 500 piastres d'essence et de propane dans mon pick-up.
OK. La conversion, est-ce que ça vaut cher, une conversion?
5 000, ça m'a coûté avec les taxes.
OK. Donc, la troisième année, là, c'est rentable à partir de la troisième année. Après la conversion, là, c'est rentable.
Un an et deux mois, à peu près, là, pour l'absorber, là, mon 5 000. Parce que moi, je fais beaucoup de millage. Juste te dire, là, mon pick-up, là, j'en ai pris la livraison le 5 juillet 2013. Je suis rendu à 218 139 kilos. Fait que je suis là, je m'en vais à Saint-Sauveur. Fait que, le propane, là, moi, je suis mort de rire. Parce que dans le fond, le seul avantage que tu as avec le propane, c'est le prix. Puis c'est simple à comprendre. Là, il est à combien le gaz? 1,16, 1,18, je ne sais pas combien, ouais. Au recul, là. Ben, 100 litres à 1,18, ça fait 118$. 100 litres à 145 sous, ça fait 45$.
Ben, vous sauvez fait énormément. Bien intéressant. Moi, merci ça. Beaucoup, André. Richard nous attend en ligne. Bien gentil d'avoir appelé. Très intéressant. Conversion propane, pourquoi pas?
Ben oui, effectivement. Sauf que, et il faut préciser aussi que toute la ligne entre Québec et Windsor, Ontario, il y a les postes pour les camions. On a, dans la plupart des cas, mis aussi des postes où on peut fouler au gaz naturel et de plus en plus au propane pour aller vers ce qu'on appelle le corridor bleu.
Pourquoi pas? Richard est là. Bonjour, Richard.
Oui, bonjour. Moi, j'ai deux questions pour vous. Je vais faire rapidement. Je suis en train de magasiner pour un VUS. J'étais allé voir le terrain au diesel. Moi, je vais en Floride tous les ans, 5 mois et demi, d'accord?
Okay.
Les sacs de golf dans le terrain ou dans l'équinoxe du diesel, écoute, il faut que je sorte les bâtons des sacs pour rentrer les sacs de golf. Là. Le vendeur n'a pas brillé, il dit, recule, baisse les deux bains. Oui, on est quatre, là, on va les asseoir où, le monde, tu sais,
ça marche pas.
Là, j'ai envoyé un courriel chez Honda. La CRV, là, c'est elle a plus de place que l'Equinox, que l'Escape, que l'Equinox, le terrain. Mm-hmm. Puis là, donc ça vient diesel, apparemment, là, dans le VUS, là. J'ai envoyé courriel à Honda, quand est-ce que vous allez la sortir? Elle est sortie d'ailleurs en Europe, la CRV
oui.
diesel.
9 absolument, vous avez raison.
8, puis 4,7 litres au 100, là. Mais pourquoi qu'ils ne sortent pas?
C'était la grande question du diesel. Le problème du diesel, évidemment, a éclaté au grand jour avec l'histoire de Volkswagen. Et moi, je pense que les compagnies commencent à reculer parce que même en Europe, ça devient difficile d'arriver avec les normes anti-pollution. Alors, de plus en plus, le diesel, on va l'abandonner, on va le garder pour applications spécifiques et on va arriver davantage avec une motorisation hybride, voire rechargeable pour les prochaines générations. Alors moi, je m'attends de voir arriver un CRV hybride avant de voir arriver un CRV diesel. Honda ont été dans les premiers avec la division Acura à annoncer une motorisation diesel en Amérique du Nord. C'était pour une Acura. Marc, je sais pas si tu te souviens, mais je pense que c'était à la TL, si je me souviens bien.
Oui, effectivement.
Puis finalement, à cause des normes anti-pollution, on n'a jamais rentré cette voiture-là. Mazda, par la suite, avait fait la même chose avec la Mazda 6 et d'autres versions du modèle. Puis finalement, il n'est jamais arrivé. On nous a promis du côté de chez Mazda le CX-5 depuis 5 ans. Puis on devrait le voir arriver si tout va bien d'ici peu, mais il n'est pas encore là. Alors, c'est difficile au niveau des compagnies. Je pense qu'on l'annonce. On prend les motorisations qui roulent en Europe. On arrive pour les rendre propres pour nous ici à nos normes nord-américaines. Et là, hop! Ça bloque, il faut étouffer le moteur, ça prend des affaires. Donc, on perd de la puissance, l'économie augmente et c'est pas rentable de le faire. Alors, je m'attends à voir arriver un CRV hybride avant un CRV diesel.
Et il faut aussi rappeler qu'en Europe, de plus en plus de grandes villes ont déjà annoncé qu'à partir de 2025, entre autres à Paris, ils n'auront plus le droit d'avoir des moteurs diesel dans la ville. Donc évidemment, les vendeurs de voitures en Europe n'ont plus intérêt à développer de motorisation diesel. Donc ce serait très étonnant que ça s'en vienne. À la limite, dans votre choix, vous pourrez rajouter justement le CX-5 diesel s'il arrive un jour, qui a un peu plus de coffre que le CX-5. Je compare les fiches, là, il y a à peu près 100 litres de plus que le CX-5, à peu près 90 de moins que le CRV. Donc, vous devriez avoir de la place pour vos sacs de golf, mais pour les diesels, votre choix va être de plus en plus limité, c'est certain.
Mais je regarde, je vais tous les voir quand je vais les voir. J'ai tout mon tape à mesurer, d'accord, pour la valise. Mm-hmm. À date, vous avez suggéré le Highlander, là.
Ouais.
C'est pas mal celui qui fait pas mal dans mon choix. Par contre, j'ai les deux livres, là, la compétition, là, le guide de l'auto et RPM. Là, un dit que c'est bon sur l'autre, l'autre dit que c'est moins bon. Là, à un moment donné, il faut arrêter. Je sais que c'est injection directe avec 8 vitesses.
Bon, il va être très économique sur la grande route, puis je dois vous laisser là-dessus, malheureusement, Richard. Très économique sur la grande route, ça, c'est vrai. En ville, par contre, va consommer un peu plus. Mais c'est quoi consommer un peu plus quand le véhicule répond à vos besoins? Ça, c'est la grande question que vous devez répondre. Vous payez quelques sous de plus le litre ou 100 km, mais un véhicule qui répond à vos besoins, ça n'a pas de prix. On s'arrête à Auto 360.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Auto 360, de retour après la pause.
Au réseau Cogeco. Au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
Auto 360, voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagu.
Alors, nous voilà de retour à Auto 360. Juste avant, Philippe, je vous rappelle la question du jour parce que je veux vous entendre sur cette question. Attendez-vous que la lumière de votre réservoir d'essence soit allumée avant de faire les pleins? Le plein, oui, c'est de l'essence, ça peut être de l'électricité, ça peut être d'autres choses, ça peut être du propane. On a vu à peu près de toutes les sortes. Alors, voilà la question. Salut, Philippe!
Salut, Daniel.
Comment ça va?
Ça va très, très bien. Je t'ai dit pourquoi, d'ailleurs. Et j'ai très, très hâte de vous parler de la Lexus LC500.
Avant, il faut parler de l'histoire.
Il faut parler de l'histoire Lexus, de Lexus, exactement. Ça fait combien de temps que tu es chroniqueur automobile, Daniel?
Ah, ça fait 19 ans.
19 ans, bon, tu vois, on est quand même assez proche. Moi, ça fait 26 ans exactement. Puis ce qui est intéressant, quand on a des années d'expérience dans un domaine, c'est d'avoir assez de recul pour décortiquer, pour analyser les changements, les bouleversements, bref, l'évolution du domaine en question. Et moi, lorsque j'ai fait mes débuts comme chroniqueur automobile, il y a plus de 25 ans, j'aurais jamais pensé, par exemple, conduire des voitures hybrides ou électriques. Puis si on m'avait dit que GM ferait faillite un jour, je l'aurais jamais cru non plus.
Non, non plus.
j'ai aussi été le témoin privilégié de la naissance de trois nouvelles marques à la fin des années 80, puis trois marques de prestige en plus. Parce que officiellement, j'ai commencé à pratiquer ce métier-là là, sur une base régulière en 1991. Puis les trois marques en question, Acura, Lexus, Infiniti, en étaient encore à leur premier pas à ce moment-là. Sauf que, bon, comme je m'intéresse à l'automobile depuis toujours, j'avais suivi de très près leur naissance et leur arrivée en Amérique du Nord, en lisant notamment les magazines américains. Mais
T'en as oublié une, Philippe?
Hein?
T'en as oublié une?
J'ai dit Acura.
Lexus Infiniti, ça, t'as vu ça?
Ouais.
Une marque de prestige, il y a Genesis.
Ah, mais attends, on n'est pas rendu là. Tu brûles les étapes, Daniel.
Ben voyons.
On est au début des années 90.
Ah, OK,
tu vas voir. Tu sais, comme je te dis souvent...
Suis l'histoire,
Daniel. Non, mais comme je te dis, c'est pas ça, je te dis tout le temps, tout est dans tout, tu vas voir. On va y arriver à Genesis, tu vas voir. T'es juste trop pressé, là.
Je sais.
C'est ça que ta blonde m'a dit aussi. Bon, alors... Donc, on disait que j'ai suivi l'évolution de très près de ces marques-là, mais j'avais très, très hâte de conduire ces voitures-là pour voir si elles étaient à la hauteur des Allemandes. Parce que, faut le dire, hein, c'est Audi, Mercedes et BMW qui étaient ciblés au début. Puis surtout qu'à la fin des années 80, là, replace-toi dans le contexte, Cadillac et Lincoln avaient vraiment perdu tout leur lustre. C'était des marques là, qui étaient perçues comme des marques vieillottes, kitsch, quétaines, là, en bon québécois. On s'en moquait allègrement et avec raison, faut bien le dire. Là. Alors, si on se replace dans le contexte de l'époque, c'était un pari qui était vraiment audacieux et même risqué pour des constructeurs asiatiques de s'aventurer sur le terrain des Allemandes. Bon, Honda, Toyota et Nissan étaient présents sur le marché nord-américain depuis une vingtaine d'années seulement à ce moment-là. Après des débuts laborieux, ils avaient réussi à se bâtir une réputation enviable grâce à la fiabilité de leurs véhicules, sauf que leurs voitures étaient abordables et c'est comme ça qu'elles étaient perçues par les consommateurs. Et là, on peut faire le parallèle aujourd'hui avec Hyundai et sa nouvelle marque de prestige, Genesis, parce que c'est exactement là qu'étaient les Japonais à la fin des années 80. Ils avaient gagné une crédibilité, mais leur marque, peu importe laquelle, là, n'était pas encore synonyme de prestige. Alors, en s'aventurant dans cet univers-là, les Japonais repartaient de zéro, pratiquement. Mm-hmm. Puis c'est Honda qui a parti le bal avec Acura en 1986. Infiniti et Lexus ont suivi 3 ans plus tard, donc en 89. Mazda même devait se lancer à son tour, devait lancer sa propre marque, Amati. Mm-hmm. Au début des années 90, moi, je me souviens très, très bien de ça. Et finalement, ben, ils ont eu des problèmes financiers, puis le projet a été mis sur la glace. En fait, il a avorté parce que la marque a jamais vu le jour.
Non.
Acura, par contre, a connu des débuts encourageants, mais il faut dire qu'ils avaient dans leur gamme un modèle abordable. Et je parle bien sûr de l'Integra, hein, un coupé sport qui a connu beaucoup de succès.
Acura, je pense qu'ils se sont jamais remis de l'Integra.
T'as...
Ils n'ont jamais connu un modèle qui a eu autant de succès que ça.
Tu as absolument raison. Puis un cran plus haut aussi, Acura avait, tu t'en souviens peut-être aussi, la Legend.
Oui, la Legend. Ouais. Oui, 5 cylindres.
Non, ça c'était la Vigor.
Ah, la Vigor, ça, oui. C'est vrai.
Et la Legend...
Ça ressemblait tellement ces deux véhicules.
Ouais, la Legend est un petit peu plus belle, du moins la première, là. Mais la Legend, c'était, bon, c'était une berline de luxe intermédiaire qui se déclinait aussi en coupé. C'est important de le préciser parce qu'on va parler des coupés Lexus. Alors, c'était une berline de luxe intermédiaire, mais donc qui se positionnait en concurrente là, des BMW Série 5 et Mercedes Classe E, par exemple, là. C'était une belle grosse berline avec un moteur V6, là. Lexus et Infiniti, eux, ils ont visé encore plus haut. Parce qu'ils avaient dans leur gamme, dès le début, un modèle pour concurrencer ce qui était, à l'époque, le haut de gamme de BMW et Mercedes, c'est-à-dire la BMW Série 7 et surtout la Mercedes Classe S, qui était la référence. Et pour ça, là, il fallait vraiment être culotté. Hein? Par contre, la stratégie a été payante, en tout cas pour Lexus, moins pour Infiniti. Puis pourtant, la première Infiniti Q45, c'était vraiment une réussite. D'ailleurs, on la qualifiait de Jaguar japonaise. Et pour en avoir conduit une, je te confirme que c'était une comparaison tout à fait appropriée, qui n'avait rien d'exagéré. Puis c'était une belle voiture en plus.
Oui.
Mais Infiniti s'est complètement planté avec les deux générations suivantes. Puis ils ont finalement abandonné le créneau des grandes berlines de luxe. Alors, Lexus est donc la seule des trois marques de prestige japonaises qui persiste dans ce segment avec la LS. D'ailleurs, on va avoir l'occasion d'en reparler de la LS au cours des prochains mois parce que la nouvelle génération vient juste d'être dévoilée. Mais aujourd'hui, je vais parler d'une Lexus qui est encore plus prestigieuse et encore plus spectaculaire, la LC500. Ça, je vous garde ça pour le prochain bloc, mais avant, je vais revenir encore en arrière pour vous parler des coupés qui ont précédé la LC500 dans l'histoire de Lexus. Alors, je reviens en arrière. La genèse du projet Lexus remonte à 1983. Le projet d'une nouvelle division de luxe était connu à l'interne là, chez Toyota sous le nom de code F1, F pour flagship et 1 parce que c'était le premier modèle. Bon, il faut dire que Toyota, comme Nissan d'ailleurs, avait déjà des modèles de luxe dans sa gamme, mais ils n'étaient pas commercialisés ici, à une ou deux exceptions près, là. Chez Toyota, par exemple, c'était la Cressida, si tu t'en souviens, qui était le modèle haut de gamme en Amérique du Nord. Et pour vous situer, là, pour ceux à qui ce nom-là ne dit rien, la Cressida se situait une coche au-dessus de la Camry, un peu comme l'Avalon aujourd'hui.
Ouais, c'était une grosse Camry.
Ouais.
Mais c'était pas excitant au coup d'œil.
Non, mais ben, il y avait un 6 cylindres quand même, tu sais, puis c'était ce que Toyota faisait de mieux, en tout cas ce qu'il y avait de mieux de ce côté-ci.
Ben oui, ça,
ils avaient déjà essayé d'autres modèles de luxe avant, ils avaient eu la Mark II, ils avaient eu la Crown, mais ça se vendait pas. Tu sais, les gens n'étaient pas prêts à payer pour une Toyota.
Japonaise à l'époque, c'était une petite voiture.
Aussi. Alors, mais on savait déjà que ce serait difficile de vendre des voitures encore plus chères sous la bannière Toyota en Amérique du Nord, parce qu'on l'avait essayé, justement. Et c'est pour ça que la marque Lexus a été créée. Elle a été créée expressément pour l'Amérique. Alors, au début, la gamme Lexus comptait seulement deux modèles. La ES250, qui était déjà une Camry déguisée en berline de luxe, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Et la LS400, qui était là vraiment une limousine là, à moteur V8, qui était l'adversaire déclaré de la Mercedes Classe S, à laquelle elle ressemblait beaucoup d'ailleurs, ce qui nourrissait la réputation de copieur des Japonais. Puis vous pouvez d'ailleurs voir des photos hein, des anciennes Lexus sur ma page Facebook. On les a mises en ligne là, juste avant l'émission. Alors, contrairement à la ES, la LS ne partageait pas ou très peu d'éléments avec les Toyota. Puis son V8 de 4 litres était un tout nouveau moteur. Il avait été développé exclusivement pour elle. Et la LS a connu beaucoup de succès dès le début, au point même d'affaiblir les ventes de BMW et Mercedes et de les affaiblir sérieusement à part ça, là. Et là, ben, Lexus s'est implanté au Canada l'année suivante, donc en 1990. Il y a un troisième modèle qui s'est ajouté en 1991, la SC400, qui est en quelque sorte l'ancêtre de la LC500 d'aujourd'hui. C'est le premier coupé de l'histoire de Lexus. Puis encore une fois, on avait visé haut, hein, elle avait le même V8 que la LS400. Et là, ce sont les gros coupés allemands qui étaient ciblés, donc BMW Série 6, Mercedes SL et aussi la Jaguar à l'époque, la XK. Faut dire qu'on avait donné les bons outils à la SC400. Bon, elle avait le V8, elle aussi, et elle avait un look spectaculaire, ce qui est très important dans la catégorie des coupés. C'était un look qui était controversé, mais qui était spectaculaire.
Oui, arrondi.
Pour être rond, c'était rond, hein?
C'était très rond. C'est une voiture qui était très appréciée par les femmes, d'ailleurs.
Oui, mais moi, je peux te dire que pour en avoir conduit aussi, c'était très agréable à conduire.
Tu sais qu'aujourd'hui, ces véhicules-là, si tu réussis à en trouver une, elles ont gardé beaucoup de valeur, puis elles sont recherchées encore, ces voitures-là.
Il y en a même qui font venir du Japon. Avec des conduites à droite, ça s'appelle des Toyota Sorer, d'ailleurs, je vais y revenir à l'instant. Mais juste avant, pour te dire que quand on parle d'un design réussi, il y a un signe qui ne trompe pas, souvent, là, c'est la longévité. T'sais, est-ce que ça vieillit bien? Ben, la SC400, ça a très bien vieilli, puis elle a eu une longue vie. Hein. C'est une voiture qui a duré 9 ans. Là. Oh. Sans prendre une ride, c'est encore une belle voiture à la fin de son cycle. Puis moi, encore aujourd'hui, je trouve ça beau, toi aussi, visiblement.
Ben oui.
Alors, la première génération était en fait un coupé de luxe Toyota, la Sorer, qui était vendue seulement au Japon. Donc, la première Lexus SC400 était une Sorer de troisième génération. Et encore une fois, là, vous pouvez la voir en photo sur ma page. Chez nous, en Amérique, la SC a été renouvelée une seule fois en 2001. Puis encore une fois, son cycle a duré 9 ans. On l'a rebaptisée SC430 lors du renouvellement. Et ça, c'est à cause de l'augmentation de cylindrée de son V8 qui est passé de 4 à 4,3 litres pour une puissance à l'époque là, de 285 chevaux. Et dans le processus de renouvellement, elle est aussi devenue un coupé cabriolet, c'est-à-dire une décapotable avec un toit rigide. Et à ce moment-là, la SC a changé de vocation et pour beaucoup même, elle a complètement perdu sa saveur. On l'a vraiment embourgeoisée, je dirais même américanisée, pour en faire un gros coupé de luxe là, qui n'était pas sportif du tout. En as-tu conduit, toi, Daniel?
Non, pas vraiment.
T'as pas connu la SC430? Parce que bon,
oui, t'es je l'ai connu, mais tu sais, j'ai pas vraiment roulé dans cette voiture.
Ouais, je peux te dire qu'il n'y avait pas grand-chose d'excitant là. Ça, je peux te le confirmer là. Alors, à défaut d'être un succès populaire, ben la SC400 avait été un succès critique. La SC430, elle, a vraiment polarisé les opinions. Sur un strict plan rationnel, on peut pas dire que c'était une mauvaise voiture. Sa qualité de construction respectait les plus hauts standards, là, conformément à la réputation rapidement établie de Lexus. C'était une voiture qui était très confortable, qui était luxueuse, qui était raffinée, qui était silencieuse, qui était fiable en plus. Mais les puristes l'ont varlopée, l'ont démolie. Top Gear a même dit que c'était la pire voiture, parce qu'elle était tout ce qu'une GT ne devait pas être. Une voiture lourde, pataude, pas agile du tout, ennuyante à conduire, je te l'ai dit. Une voiture vraiment là, d'une autre époque. Mais finalement, c'est la popularité déclinante des coupés qui a finalement signé l'arrêt de mort de la SC430 en 2010. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et ça, je vous raconte la suite dans le prochain bloc.
Oui, et ça sera pas bien long. On s'arrête pour une pause, on vous revient.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Petite pause, on vient ensuite. Restez là. Au réseau Cogeco.
Auto 360.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Nous voilà de retour, un petit bloc rapide et on parle tout de suite à Steve. Bonjour Steve.
Oui, bonjour. Ce serait pour vous demander entre le CR-V de Honda, qui va venir hybride, et le RAV4 qui est déjà hybride.
OK. Vous voulez choisir entre les deux?
Oui.
Bon, le CR-V hybride n'est pas confirmé. Ça, c'est une première chose. On n'a pas de confirmation pour ce modèle-là. Et le RAV4 hybride, il est déjà là. Il est efficace. C'est le système synergie Toyota. Il n'y a aucun problème. Alors, moi, je recommande pour tout de suite le RAV4 hybride.
OK. Moi, je calcule pour dans 2 ans. Là, mais là, c'est parce que avec la bonne femme, c'est dur de choisir. Elle avait le CR-V Honda, puis moi, je veux pas qu'il est économique.
Oui, ben le CR-V est économique, comme la version de base aussi avec le moteur régulier du RAV4. Il n'y a pas une énorme différence là, à vous rendre riche avec l'économie de carburant que vous allez faire entre les deux. Par contre, dans 2 ans, ben là, vous allez nous rappeler. J'espère que vous allez nous rappeler pour nous dire, ben là, ouais, le CR-V hybride ou l'autre, on ne sait pas lequel des deux véhicules va être là. Le RAV4, je pense qu'il va changer de modèle, hein?
Le hybride, on ne sait pas encore ce qu'il va avoir sous le capot réellement chez Honda. Et comme tu dis, le RAV4, on l'a déjà lancé il y a 2 ans. Donc, on devrait le rechanger d'ici ce temps-là. Fait que ça se peut que vous ayez besoin de nous autres dans 2 ans, mon frère.
OK. Merci. Non, parce qu'il faut que je convainque. J'en ai pour 2 ans à essayer de convaincre la bonne femme.
J'espère que bon, ben, vous commencez après-midi. Commencez tout de suite. On s'en parle plus tard. Merci d'avoir appelé. Bien gentil. Roland est là. Bonjour, Roland.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Moi, j'ai une information que je voudrais avoir.
Oui.
J'ai loué un Ford Focus Titanium 2015. OK?
Oui.
Puis, il coûtait 28 500, quelque chose de même. Je me demande si je ferais bien de l'acheter ou, parce que la location, il finit au mois d'avril. Okay. J'ai rendu 57 000.
57 000 kilomètres, probablement?
Oui, 57, c'est ça. Puis là, je les ai demandé un prix d'achat. Ils n'ont pas voulu me le dire.
Okay.
Ils m'ont dit qu'il y en a trop de 15 000. Il va avoir donné 21 000 à l'actuel.
Écoutez, Roland, on va devoir répondre à votre question au retour de la pause, mais pour moi, vous le remettez, vous repartez avec un tout nouveau Focus. Ça va être une très belle solution. On s'arrête pour la pause et au retour, on vous parle. Restez là.